Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Marie Valogne.
Bonjour à tous et bienvenue dans HebdoCom, l'émission où l'on parle publicité et communication sur BFM Business. Aujourd'hui, nous recevons Eric Schnubel, il est directeur général de l'IAB France. Avec lui, nous parlerons du guide de la publicité native pour les annonceurs. L'IAB vient de le publier. En quoi consiste-t-il et pourquoi était-il nécessaire? Tout le détail dans quelques minutes. On continuera à parler pub en ligne avec notre chroniqueur Simon Tenenbaum. Simon fera pour nous un bilan du secteur et vous verrez que Google, Amazon et Facebook renforcent leur position sur le marché français. Enfin, notre Zoom sera consacré à l'engagement des marques sur des sujets sociétaux. Un engagement qui tend à être militant, soutien aux manifestations antiracistes, boycott de Facebook, changement de ton. La communication des marques est-elle devenue politique? Nous poserons la question à Fanny Camus-Tournier du collectif du planning stratégique. Voilà le sommaire. Tout de suite, les news de la semaine dans le monde de la pub.
BFM Business, HebdoCom. Les news.
Et j'accueille sur ce plateau le rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy. Bonjour Frédéric.
Bonjour Marie.
Et Julien Rizzo. Bonjour Julien.
Bonjour Marie.
De la rédaction de BFM Business. Julien, on commence par la nouvelle campagne de Bodyform, une campagne sans tabou.
Oui, souvenez-vous, la marque nommée Nana en France avait sorti l'année dernière sa campagne polémique, un petit peu, Viva la Vulva, une publicité très remarquée, hein, donc parfois très polémique, mais dont le succès a été total, plus de 60 prix reçus, dont 6 Cannes Lyon. Alors, le groupe revient avec un nouveau spot de plus de 3 minutes, intitulé Histoire d'utérus. Il vient mettre fin au tabou sur l'appareil reproducteur féminin. Pour cela, la publicité alterne images réelles de femmes et images d'animation, représentant l'intérieur de l'utérus. On voit par exemple une fillette vivant au sein de l'appareil reproducteur d'une femme enceinte, prendre soin d'une petite plante et donc par extension d'un fœtus. Des premières règles à l'endométriose, en passant par la ménopause, le plaisir ou les fausses couches. La marque traite l'utérus sous tous ses aspects. Un film poétique et émouvant signé AMV Bébé Déo.
Et sans transition, on poursuit avec la marque Erstein qui propose non pas un nouveau sucre mais une spatule tactile.
Oui, un ustensile de cuisine qui vient en aide aux cuisiniers en herbe, ceux qui bien souvent utilisent leur smartphone pour suivre des recettes trouvées sur internet. Alors la publicité d'Erstein diffusée sur Facebook met en scène un homme en train de cuisiner un gâteau au chocolat à partir justement d'une recette trouvée sur son téléphone et sur internet, sauf qu'au moment de l'étape 3, faire fondre le chocolat, son téléphone se verrouille. Et là, c'est le drame. L'homme reste bloqué, hein, véritablement bloqué, immobile, avec ses mains pleines de chocolat. Il ne peut pas déverrouiller son téléphone pour continuer sa recette. Et donc, du coup, une situation terrible, accentuée par l'eau bouillante qui déborde de la casserole, le four qui se met à chauffer et le batteur électrique qui devient fou. Bref, une scène un peu irréaliste. Une campagne humoristique fraîche et épurée, signée Social Club, qui renouvelle totalement l'image de la marque très traditionnelle qui était à l'époque, en 2016, la marque alsacienne.
Et ça sent le vécu. On termine, Julien, par l'offre télétravail proposée par Pierre et Vacances.
Oui, faire rimer travail et vacances, c'est le pari qu'a réussi le groupe, aidé par l'agence Rosa Parks. Alors, dans sa nouvelle campagne d'affichage, Pierre et Vacances invite les salariés à travailler à distance depuis ses centres de vacances. À travers 6 panneaux différents, le groupe détourne des concepts de la vie de bureau avec des paysages de rêve. Sur une affiche, on peut lire par exemple un Oppo Space, c'est ça, avec en arrière-plan une photo de montagne verdoyante, ou encore ce panneau qui indique optimiser les trous dans votre planning avec l'image en arrière-plan d'un terrain de golf. De quoi faire rêver tous les télétravailleurs enfermés chez eux devant leur ordinateur.
Alors, vu comme ça, Frédéric, hein, ça a l'air sympa le télétravail chez les vacances.
Ouais, ça a l'air bien cool, oui. Le truc, c'est que je suis pas très sûr que ce soit le meilleur message à passer en ce moment où justement on est en train de dire que il y a eu des abus sur le chômage partiel, sur la difficulté de revenir au travail et sur la façon dont on va télétravailler. Bon, je comprends que Pierre et Vacances ait très 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 besoin de clients, mais je suis pas absolument certain que ce soit la meilleure façon de le faire.
Pas convaincu. Donc merci Frédéric et merci Julien Rizzo.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Et nous recevons aujourd'hui Eric Schnubel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'IAB France, l'association qui fédère l'ensemble des acteurs de la publicité digitale en France et à l'international. L'IAB vient de publier un guide de la publicité native pour les annonceurs, une sorte de livre blanc pour leur expliquer de façon claire les spécificités de ce format. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la publicité native ?
Très bien. Alors, la publicité native, en fait, est un format un petit peu particulier, intégré, qui reprend les codes, l'ergonomie et le design des sites sur lesquels la publicité est diffusée. Donc, c'est un format particulier.
C'est ce qu'on appelait un petit peu avant, dans la vieille presse, des publis reportages, en quelque sorte.
En quelque sorte, on peut dire ça avec l'évolution technique qui fait que, effectivement, il y a une intégration encore un peu plus forte.
C'est ça. Ça s'en inspire, en tout cas. Et donc, votre livre blanc, qu'est-ce qu'il préconise ? Parce qu'il y a eu. La publicité native est très appréciée par les annonceurs, parce qu'effectivement, ça s'intègre bien. Dans le flux de la lecture des internautes, mais elle peut aussi être problématique quand c'est pas tout à fait clair que c'est de la publicité, quoi.
Ah oui, très effectivement, mais les codes aujourd'hui, notamment prônés par l'IAB, respectent très clairement la distanciation entre l'éditorial et la publicité. Mmh. Nous, ce qu'on a voulu mettre en avant à travers ce guide, en fait, c'est que la publicité native obtient des performances supérieures, en tout cas des performances de résultats pour les annonceurs qui sont vraiment très visibles. Et ce qu'on veut mettre en avant justement, c'est ces formats qui obtiennent des performances destinées aux annonceurs.
Alors pour revenir sur ce que disait Frédéric, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même avec la publicité native de créer un peu la confusion ou une déception pour l'internaute qui est sur son article et qui clique en fait sur une publicité en pensant que c'est un article, sauf qu'en fait c'est sponsorisé. Est-ce qu'on peut pas créer le risque n'est pas de créer la confusion ?
Normalement, sur la publicité telle qu'on les voit sur le site, c'est très clairement exprimé que c'est sponsorisé, ou en tout cas que c'est de la publicité. Donc normalement, il n'y a pas d'erreur. L'avantage de la publicité native, c'est vraiment qu'elle s'inscrit dans le fil de lecture de l'internaute et n'interrompt pas justement sa lecture éditoriale. Donc c'est ça qui est mis en avant, et il y a très clairement inscrit que c'est un lien sponsorisé ou que c'est de la publicité.
Est-ce que l'autre avantage, c'est aussi que, outre le fait qu'elle permet de délivrer une information peut-être plus sophistiquée qu'une bannière, en tout cas au premier niveau de lecture, qu'elle échappe aussi aux adblockers ?
Tout à fait. C'est un des éléments aussi qui est important et clé, puisqu'elle est complètement inscrite dans l'ergonomie, le site dur de l'éditeur. Et donc ça permet effectivement d'éviter ça. Et l'autre élément qu'on a voulu quand même mettre en place et sur lequel on a publié ce guide, c'est que c'est vrai que c'est l'un des rares formats, et on l'a vu récemment avec les résultats de l'observatoire de l'IPUB, c'est l'un des rares formats à avoir progressé et à continuer de progresser, et notamment en période de crise avec le Covid.
C'est un moyen de mieux faire accepter la publicité aux internautes, la publicité native ?
Oui, je crois que c'est un moyen. On a des études qui le montrent, comme quoi la publicité native est bien comprise, bien appréhendée, parce que justement, elle est dans ce fil de lecture de l'internaute. Elle n'a pas ce caractère que peuvent avoir certains formats d'intrusivité, notamment.
Et en quoi peut-on dire qu'elle est engageante ?
On le voit à travers les résultats, en fait. On a des résultats qui sont, que ce soit en termes de clics, que ce soit en termes de demandes d'informations sur les sites des annonceurs ou des marques, on a des résultats qui sont bien souvent meilleurs que des publicités dites classiques comme les bannières.
Et
on trouve les résultats dans le guide.
Et ça marche pour tout le monde, je veux dire. Il y a des secteurs qui sont plus enclins à l'utiliser que d'autres.
Oui, il y a des secteurs qui sont plus enclins. Encore une fois, la création est déterminante, le message est déterminant. Quand vous avez un produit, on va dire, c'est classique pour la publicité, plus appétant, automatiquement, et avec des images et une mise en avant et une mise en forme valorisante, vous obtenez de meilleurs résultats que quand vous avez un produit qui est un peu plus difficile et compliqué ou complexe à appréhender pour le consommateur. Donc effectivement, il y a des secteurs plus porté sur ce type de publicité. Je pense notamment à l'automobile, par exemple, qui peut être l'un des secteurs phares.
Le natif, c'est aussi une réponse un peu à ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Les tweets sponsorisés, les posts sponsorisés sur Instagram qui se confondent finalement très bien avec, le reste, avec le format que sont ces réseaux sociaux. Pardon. Est-ce que ça permet de faire revenir les annonceurs vers des sites plus traditionnels face à ces réseaux sociaux qui prennent quand même beaucoup de place?
Bah, très clairement, le format natif est venu de la croissance des usages sur le mobile, dont les usages sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, s'inscrit complètement à la fois sur les réseaux sociaux et sur les autres sites. Mmh. Et très clairement, effectivement, il y a une continuité entre la publicité qui est sur les réseaux sociaux et la publicité native qu'on retrouve sur d'autres applications ou d'autres.
Mais c'est une arme pour faire revenir les annonceurs sur les sites traditionnels?
Alors, faire revenir les annonceurs sur les sites traditionnels, je ne sais pas, parce que les résultats de l'Observatoire montrent qu'encore encore au premier semestre, que ce soit le search ou le social, a progressé et gagne de la part de marché. Donc, je ne sais pas si ça suffit et si c'est une arme suffisante pour faire revenir les annonceurs sur les sites, entre guillemets, traditionnels.
Mais c'est en tout état de cause, manifestement, un avenir important de la pub, parce qu'effectivement, quand on voit les chiffres qui sont tombés cette semaine, avec une baisse générale, une hausse aurait été bien, de 8%, ça se présente très mal. Et il y a en gros que les formats natifs, ces formats nouveaux qui permettent de continuer à marcher. Quoi.
Effectivement, je crois que je cite de tête, c'est à plus 2% pour la publicité native dite display, donc oui. Traditionnelle hors social. Ça vient du fait qu'ils sont sur un développement et un trend très important. Donc on parle des chiffres du premier semestre, oui. Donc il y a eu un avant confinement et un après. Donc le premier trimestre a dû connaître une forte augmentation et le premier trimestre a connu une forte augmentation. Le deuxième a dû connaître une baisse, mais une baisse moindre que les autres formats de publicité. Ça vient aussi du fait sans doute que les annonceurs pendant cette période de confinement étaient dans une dynamique et une recherche de performance, de résultats rapides, immédiats, instantanés, et que justement la publicité native permet, puisque c'est son modèle économique.
C'est un moyen de rebooster le marché.
C'est un moyen, effectivement, de réalimenter, de réactiver toutes les dimensions de performance et de e-commerce, notamment. C'est clair.
Et à l'inverse, les bannières un peu clignotantes qui surgissent un peu partout, j'ai l'impression...
Il y en a de moins en moins.
Il y en a de moins en moins, mais enfin, il y en a encore pas mal. L'un des rôles de l'IAB est de normer, de réguler ce marché. Justement, où est-ce qu'on en est? Je veux dire, vous dites qu'il y en a de moins en moins, mais pour l'internaute moyen, je suis pas sûr que ce soit absolument évident.
Je crois qu'il y a quand même eu il y a 5 ans, 10 ans et maintenant, il y a quand même eu forme de standardisation des formats, c'est-à-dire qu'on a les fameux formats IAB avec des normes techniques et des specs bien, bien particuliers. Ce sont ces formats traditionnels qui sont dominants aujourd'hui. Après, il y a la formats vidéo. Oui. Qui aussi est en plein développement. Alors, c'est intéressant de constater que la vidéo a beaucoup souffert de la période post-confinement, parce que la vidéo, effectivement, est un format moins engageant en termes de performance et plus un format sur ce qu'on appelle le branding, l'image de marque, que la performance et du résultat immédiat. Donc, il y a un travail qui a été fait, notamment au sein de l'IAB, avec les fameux formats IAB, et justement avec ce type de guide qui est là aussi pour expliquer, cadrer, je dirais, ce type de format natif.
Merci Eric Schnubel pour vos éclairages. Eric Schnubel, le directeur général de l'IAB France, était sur notre plateau.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et Simon Tenenbaum de la rédaction de BFM Business nous a rejoint. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors Simon, on vient d'en parler, les derniers chiffres de l'Observatoire de l'IPUB, du SRI sont sortis. Ils nous montrent que le marché de la pub digitale est en recul. Personne n'a été épargné par la crise, mais les GAFA s'en sortent mieux que les autres.
Oui, la pub digitale qui avait connu un très bon début d'année termine le premier semestre en baisse de 8%. Mais effectivement, tout le monde n'a pas souffert dans les mêmes proportions. La publicité classique, le display sur les sites internet et en vidéo est en repli de 17%. Alors que la pub sur les moteurs de recherche, et donc essentiellement Google, est en baisse de 9%. Celle sur les réseaux sociaux, et donc essentiellement Facebook, ne recule que de 5%. Le retail search, donc la publicité sur les sites de e-commerce, a elle-même progressé de 19%, essentiellement au profit d'Amazon. Résultat, les trois plateformes ont accentué leur emprise sur le marché français avec 80% de parts de marché au premier semestre.
Alors, comment expliquer que les GAFA surperforment comme ça ?
D'abord, on peut dire que leur croissance, malgré tout, a beaucoup ralenti, avec surtout Google, très affecté par le repli des annonceurs dans le tourisme, notamment, qui va passer en négatif cette année. Mais effectivement, ils font mieux que les autres. Alors, pourquoi ? Bon, explosion du e-commerce, c'est assez logique, ça profite essentiellement à Amazon. Hausse du temps passé globalement sur les écrans, ça profite un peu à tout le monde, mais aussi aux GAFA. Et plus largement, cette résistance peut s'expliquer parce que, voilà, les entreprises, les PME en particulier ont entamé, accéléré leur digitalisation et on sait que ça profite à Facebook, à Google, très tourné vers les petites entreprises, les PME, le local, c'est vraiment leur cœur de marché. Autre raison, on en a parlé avec l'invité juste avant, ces plateformes ont des outils publicitaires davantage tournés vers la performance, le ROI, il fallait tout de suite du résultat pendant la crise, c'est particulièrement vrai dans le search, d'où leur avantage par rapport à la publicité vidéo, display, qui est plus cher, qui est plus sur l'image, les opérations spéciales aussi, qui ont beaucoup reculé pendant la crise. À noter d'ailleurs que les autres leviers performance, hors GAFA, ont eu des très bons résultats, les emails, les comparateurs de prix, qui ont très bien marché pendant cette période.
Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Alors, selon l'observatoire ePub, la pub digitale devrait quand même un peu se redresser d'ici à la fin de l'année pour réduire sa baisse à 6% en 2020, ça sera bien mieux que les médias traditionnels qui devraient afficher un plongeon de plus de 20%, à tel point que les grands équilibres vont bouger. La pub en ligne devrait passer en 2020 le cap des 50% de parts de marché publicitaire, autrement dit la publicité sur Internet, et donc essentiellement le trio Facebook, Google, Amazon, va générer plus de recettes que sur l'ensemble des autres supports réunis, radio, télévision, affichage, presse. Ce sera a priori pour la première fois le cas en France, mais aussi au niveau mondial, selon des études publiées ces dernières semaines par Magna et Groupe M. Alors, sur le retour à la normale, d'après les différentes études que je viens de citer, le marché du digital devrait retrouver dès l'an prochain, en 2021, son niveau d'avant-crise de 2019. Le choc a été plus fort et le retour à la normale sera plus lent, évidemment, pour l'ensemble du marché et les médias traditionnels. Il faudra a priori attendre 2022, si tout va bien, pour retrouver les niveaux d'avant l'épidémie.
On fera le point en 2022. Merci Simon Tenenbaum.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
La communication des marques est-elle devenue politique ? C'est vrai qu'il y a eu récemment de plus en plus de publicités engagées, mais on observe aujourd'hui de la part des annonceurs un discours très militant, presque activiste. On le voit avec les marques qui boycottent Facebook, celles qui apportent leur soutien au mouvement Black Lives Matter par exemple. On en parle aujourd'hui avec vous, Fanny Camus-Tournier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre fondateur du collectif du planning stratégique, vous êtes aussi directrice de la stratégie d'Ogilvy Paris. Est-ce que c'est vraiment leur rôle aux marques de s'engager sur des sujets sociétaux ?
Aujourd'hui, oui. Ça devient... c'est même plus une option, en fait. C'est une obligation. Alors après, pas forcément sur tous les sujets. Et c'est toute la difficulté de pas forcément suivre suivre un mouvement, comme par exemple Black Lives Matter, mais s'interroger sur quel est le juste engagement pour la marque.
Cela dit, ça demande quand même une certaine délicatesse, parce qu'on a vu L'Oréal récemment dire qu'il ne parlerait plus de blanchir la peau de leur cliente. Ça leur a valu un retour de bâton quand même assez violent. Donc, c'est pas tout de faire de la politique. Faut un peu savoir, non ?
Exactement. comment est-ce qu'on a sorti les paroles avec les actes. Je pense que dans le cadre de L'Oréal, en plus, ce qui est compliqué, c'est que c'est un groupe avec énormément de marques, énormément de produits. Donc, il est difficile d'avoir un seul et même engagement quand à côté, on peut avoir des produits qui sont justement, dans le cadre, encore une fois, du Black Lives Matter, qui sont plutôt, qui servent à blanchir la peau. Mais pour en venir, du coup, sur ce que je disais de l'engagement et la précision d'un engagement, oui, un groupe comme L'Oréal, un groupe comme Unilever, c'est compliqué d'avoir un seul et même engagement parce qu'on va forcément avoir des marques ou des produits qui vont être en contradiction parfois avec cet engagement. Mmh. Mais en revanche, réussir à choisir pour une marque un engagement, c'est peut-être ça la voie davantage à suivre pour être sûr de pas avoir après de retour de bâton. Et on sait combien aujourd'hui en plus les consommateurs qui sont en fait des utilisateurs des réseaux sociaux peuvent le faire.
Mais alors est-ce que finalement c'est pas un peu pour éviter le bad buzz?
Éviter de quoi?
De réagir tout de suite, de s'engager avant même de savoir comment ses clients auraient réagi. Est-ce que les marques doivent vraiment s'engager alors que ce n'est pas forcément leur sujet, leur cœur de métier?
Je pense qu'il y a, c'est un peu ce qu'on a vu quand il y a eu la catastrophe de Notre-Dame, où c'était une sorte de course un petit peu à l'échalote de qui sera celui qui donnerait, enfin qui donnera le plus de millions. Et donc ça, c'est tout de suite effectivement perçu comme de l'opportunisme. Après, il y a des marques qui sont extrêmement légitimes à s'exprimer sur un sujet plus que sur un autre. L'exemple de Nike, évidemment, ils ont été les premiers à réagir, mais ils avaient une légitimité parce que il y a un peu plus d'un an, ils avaient pris comme porte-parole Colin Kaepernick, qui s'était déjà engagé sur les violences policières. Et voilà, donc quand on a des marques qui ont un passé autour de cet engagement, elles ont tout à fait intérêt à le faire.
On l'a vu aussi beaucoup, évidemment, pendant le confinement, où beaucoup de marques se sont engagées, là, moi, en politique, en tout cas, dans la société. Au fond, au-delà peut-être d'une démarche naturelle et humaine, derrière, le jeu, c'est d'améliorer l'image de marque et donc les ventes à un moment ou à un autre.
Mais je pense que déjà, c'est ce qu'attendent les gens, hein, c'est ce qu'attendent les consommateurs. Il y a un chiffre qui est assez étonnant qui est sorti en avril là, qui disait que 94% des Français pensaient que les marques étaient légitimes à prendre part à la crise sanitaire. Donc c'est déjà la preuve que... Alors oui, après il y a une grande exigence aujourd'hui des consommateurs, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Les marques n'ont pas le droit à l'erreur. Le marketing n'a pas le droit à l'erreur. Mais en revanche, il y a une vraie attente. Donc je pense qu'il faut réussir à ne pas se laisser apeurer par les retours de bâton, qui sont en fait des retours de bâton extrêmement justes. En fait, les gens sont là pour dire quand les marques font les choses bien et quand les marques ne font pas les choses bien. Mais ils attendent aussi beaucoup... Ils attendent aussi beaucoup des marques. Et on voit que une marque qui s'engage, c'est pas seulement un acte de philanthropie, c'est aussi ça a justement un impact positif sur la préférence d'achat. Pareil, il y a une étude de Capgemini là qui est sortie début juillet, donc qui est vraiment toute fraîche. On voit que pour 79% des consommateurs, l'engagement en faveur du développement durable des entreprises est un facteur déterminant de préférence d'achat. Donc voilà, c'est les marques s'exposent, mais elles s'exposent aussi à améliorer leur image et améliorer finalement leur business.
C'est votre rôle en agence de dire à vos marques, les marques qui travaillent avec vous, qu'il faut s'engager. Ou est-ce que c'est les marques en ce moment qui viennent vers vous pour vous dire tiens, il faudrait un peu qu'on change un peu notre marketing, notre communication. Comment ça se passe en ce moment?
Je pense que tout le monde en a conscience. Après, la question, c'est plus le comment.
Oui.
Comment est-ce qu'on fait les choses? Et encore une fois, comment est-ce qu'on n'est pas seulement dans une déclaration d'intention, mais on est aussi dans l'action? Et donc, ce qui est compliqué, c'est que parfois, on a beau vouloir proclamer des choses, il faut après qu'elles soient assorties d'actes. Et c'est là où ça devient difficile, parce que ça demande une réorganisation, beaucoup d'investissements aussi, une réorganisation de l'interne, de la politique de recrutement, de la politique de production. Donc c'est beaucoup, ça a beaucoup, beaucoup d'implications. Mais après, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être... optimal, d'être parfait pour pouvoir s'engager. On peut aussi s'inscrire dans une démarche de progrès.
Mais toutes les marques, toutes les causes, pardon, sont bonnes à prendre pour les marques. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que pendant le confinement, on sentait très bien, mais quand on est sur des sujets plus politiques, par exemple, et je parle pas de Black Lives Matter, mais peut-être d'autres points, est-ce que les marques sont aussi fondées à s'engager?
Je pense que ça dépend de l'histoire, en fait, des fondations de la marque. Des marques qui, comme Patagonia ou comme Ben & Jerry's, qui sont des marques qui se sont fondées en fait sur l'activisme, qui ont des fondateurs qui sont des activistes. Elles ont évidemment une légitimité à aller demander une modification de loi. C'est ce qu'a fait Ben & Jerry's là justement dans le cadre de Black Lives Matter. Mais après, non, une marque qui n'est pas fondée là-dessus, aller sur le terrain politique, on sait toujours que c'est glissant, on sait toujours que c'est dangereux. En revanche, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est cette nécessité d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Parce que en essayant de plaire à tout le monde, finalement, on plaît un petit peu à tout le monde, mais qui nous aime vraiment ? Personne. Ce qui est intéressant de voir, c'est que parfois les engagements, oui, ils ne satisfont pas tout le monde. Il y a certains consommateurs qui vont abandonner une marque, mais c'est aussi certains autres qui vont être fidélisés. Donc je pense que l'engagement, il est aussi lié...
C'est un risque à prendre, en fait, à chaque fois.
Exactement, c'est un risque à prendre, mais qui peut être doublement payant au final.
Et quand on est une marque, je prends une marque de voiture, une marque de pétrole, on peut faire ça aussi. Il n'y a pas là, pour le coup, un risque beaucoup plus grand de se prendre un coup de bâton puisque on est dans un secteur qui est pas forcément facile et pas forcément dans l'air du temps, je veux dire.
Bah, tout dépend de l'engagement. Ouais. Je vais pas prendre l'exemple d'une marque automobile, mais pour reprendre l'exemple de Nike, ils ont pas mal de choses à se reprocher aussi sur leur production. Et pour autant, quand ils parlent du racisme, ils sont extrêmement légitimes. Donc, encore une fois, c'est quel choix, le choix de l'engagement qui est extrêmement, qui est très important.
Merci Fanny Camus Tournier d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes membre fondateur du collectif du planning stratégique et directrice de la stratégie d'Ogilvy Paris. Merci au rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy, d'avoir été avec moi, à mes côtés, pour cette dernière de la saison, hein, parce que par amour du goût, on en fait plusieurs. Et puis cet été, vous retrouverez les best-of d'Hebdo.com. À très vite sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.